serai la seule candidate communiste dans cette élection présidentielle. Depuis ses débuts, le courant communiste s'est employé à défendre la perspective de la révolution sociale, la perspective d'une société sans classe sociale, sans l'exploitation capitaliste. Le courant communiste a toujours opposé à la politique bourgeoise une politique ouvrière, opposée aux valeurs de la bourgeoisie, les revendications des exploités. Alors que la plupart des représentants politiques n'ont que les mots « liberté », »,« égalité », »,« fraternité » à la bouche, le courant communiste les a toujours dénoncés comme des mots creux pour les travailleurs. On nous parle de république et de démocratie, mais c'est le droit du plus fort et c'est le pouvoir absolu du capital. Au prétexte qu'ils ont apporté les capitaux, les plus riches brassent les milliards qu'ils ont prélevés sur l'exploitation. Ils ont un droit de vie ou de mort sur les entreprises. Et ils tiennent dans leurs mains la vie de millions de travailleurs. Les injustices, les inégalités ont toujours été combattues par le courant communiste révolutionnaire. Et ce courant a systématiquement pris le contre-pied du fatalisme et de la résignation prêchée par la bourgeoisie. Et il s'est battu, au contraire, pour que les travailleurs qui font tout tourner dans l'économie prennent conscience qu'ils peuvent aussi la diriger. Et qu'ils pourraient collectivement le faire mille fois mieux que ne le font aujourd'hui les capitalistes. Le courant communiste révolutionnaire a toujours refusé de s'intégrer au système politique de la bourgeoisie, mais il a toujours tenu à se faire entendre dans toutes les élections. C'est ce courant que je veux représenter dans cette campagne pour l'élection présidentielle. Toutes celles et ceux qui sont convaincus que cette société d'exploitation est à renverser, et qu'il n'y a rien à garder du système capitaliste, doivent l'affirmer. Toutes celles et ceux qui sont fiers d'avoir conservé envers et contre tout leurs idéaux, leurs rêves et leurs convictions que l'avenir ne peut être que dans une société communiste doivent l'exprimer. Même dans les élections, on peut lever le drapeau de la révolution sociale. Je tiens à saluer la présence du collectif des sans-papiers. Je leur souhaite à tous la bienvenue. Qui est faite aujourd'hui aux travailleurs sans papier est scandaleuse, inadmissible. Et avec vous, nous revendiquons bien évidemment la régularisation de tous les sans papiers. Eh bien, on peut lever le drapeau de la révolution sociale. Et ce, d'autant plus que la faillite de ceux qui dirigent l'économie est patente. D'autant plus qu'il est manifeste qu'une économie basée sur la loi du profit, la concurrence et la propriété privée nous emmène dans le mur. Il faut que dans cette élection se manifeste un courant politique qui se place du point de vue des travailleurs et exclusivement du point de vue des travailleurs. Un courant qui affirme qu'il est vital, urgent, d'imposer et de contraindre la bourgeoisie à payer pour assurer et garantir les emplois, les salaires, les retraites, les services publics, et ce, quoi qu'il en coûte à la bourgeoisie. Et si les profits d'aujourd'hui ne suffisent pas, eh bien il faut forcer les capitalistes à puiser dans les profits passés, et même dans les fortunes privées accumulées au fil du temps. Quand nous disons qu'il faut interdire les licenciements, on nous oppose que ce n'est pas possible, que ce n'est pas réaliste, parce que cela risquerait de mettre les entreprises en difficulté. Mais les travailleurs, eux, quand ils se retrouvent sur le carreau, ils sont mis dans les pires difficultés. Ce sont les impayés qui s'accumulent, les découvertes bancaires, les agios, les menaces de coupure de téléphone, d'électricité. Et il faudrait qu'ils se débrouillent, qu'ils aillent au restaurant du cœur, qu'ils arrêtent de se soigner. Eh bien non, c'est leur vie, c'est leur emploi et c'est leur salaire qu'il faut préserver d'abord et avant tout. Déterminant dans l'avenir, c'est qu'il y ait des femmes et des hommes prêts à en découdre avec le patronat. Parce qu'avec la crise, la lutte de classe devient de plus en plus violente. Confrontés à cette crise, les capitalistes compensent leurs pertes en aggravant l'exploitation. Ce sont les cadences qui augmentent, les pressions pour en faire toujours plus, les minutes de pause volées, les heures supplémentaires qui sont oubliées sur les fiches de paye. Ce sont des horaires de travail toujours plus dingues. Ce sont aussi les accidents du travail, qui sont maquillés en arrêt maladie. Et puis ce sont les intérimaires, les stagiaires, qui sont renvoyés du jour au lendemain et leur boulot qui retombe sur ce qui reste. Tout est bon pour baisser la masse salariale, à commencer par les licenciements et les fermetures de sites. Faire la liste des grands groupes capitalistes qui ont licencié ou supprimé les emplois depuis 3 ans est impossible, ils l'ont quasiment tous fait. Depuis 3 ans, 900 usines ont fermé dans le pays. Une usine par jour. Et il y a eu 1 million de chômeurs de plus depuis 5 ans. 1 million qui s'est rajouté aux 3 millions de femmes et d'hommes déjà privés de travail. Alors comment après cela être surpris que plus de 8 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté et que les restaurants du cœur sont assaillis? Et tout ça pourquoi? Eh bien pour que les dividendes des actionnaires soient préservés, pour que les fortunes des plus riches soient garanties. Alors on nous dit que c'est la crise. Ça, personne ne peut le nier. Mais ce n'est pas la crise qui fait que le grand patronat s'en sort indemne, qu'il s'en sort avec tous ses profits et que ce sont les travailleurs qui payent. Non, ça, c'est le résultat d'une politique patronale. C'est le résultat de la lutte de classe. Alors beaucoup s'étonnent que dans ce contexte de lutte de classe de plus en plus violente, il n'y ait pas plus de réaction de la part des travailleurs. Mais la crise que nous vivons est souvent comparée à la crise mondiale de 1929. Eh bien, à l'époque, il a fallu attendre 1934 aux États-Unis, 1936 en France et en Espagne, pour que les travailleurs trouvent le chemin des luttes et de la grève générale. Il a fallu des années pour que les travailleurs passent de la résignation, du désespoir, impuissant, voire réactionnaire, à l'espoir d'inverser le cours des choses. Eh bien, aujourd'hui, la matière explosive s'accumule dans la classe ouvrière. Et le moment de la révolte de millions de femmes et d'hommes viendra tôt ou tard. Eh bien, il faut que dans cette révolte, les travailleurs aient une politique, qu'ils sachent pourquoi se battre et comment faire pour inverser durablement le rapport de force avec les capitalistes. Est donc à l'offensive. Et il a trouvé en la personne de Sarkozy son porte-parole idéal et son serviteur zélé. Un serviteur zélé qui s'emploie dans cette campagne à s'adresser à son électorat, la bourgeoisie petite et moyenne qui se cramponne à sa propriété, qui méprise les salariés et qui vote traditionnellement à droite. Dans les discours de Sarkozy, comme dans le discours de Villepinte, il y a toujours de quoi chatouiller agréablement les oreilles de tous les petits patrons réactionnaires. De tous ces petits patrons prompts à assimiler les salariés à des fainéants et à considérer que ceux qui sont au chômage l'ont bien cherché. Le mérite, l'enrichissement et la réussite sont présentés par Sarkozy comme s'ils étaient le résultat du travail et de l'effort. Mais il n'y en a pas que pour chatouiller les oreilles du patronat. Il y a aussi des promesses sonnantes et trébuchantes à leur égard. Sarkozy vient par exemple de promettre une nouvelle exonération de cotisations pour les patrons. Ce cadeau s'adresse cette fois aux patrons qui embaucheraient des travailleurs de plus de 55 ans, à qui il serait accordé rien moins qu'une exonération totale et permanente de cotisations. Il y a déjà les exonérations pour l'embauche de jeunes, pour l'embauche de smicards, pour l'embauche de travailleurs handicapés, et bien voici maintenant les exonérations pour l'embauche des anciens. Et bien à ce rythme, Sarkozy va finir par décréter l'exonération totale et permanente de cotisations pour tous les patrons et dans tous les cas, et ainsi ses amis du MEDEF seront comblés. Alors que la campagne est marquée par le chantage à la dette, alors que Sarkozy répète semaine après semaine qu'il ne peut être question de dépenser un centime de plus et que l'État est au bord de la faillite, eh bien voilà qu'il trouve soudain assez d'argent pour offrir un cadeau de quelques milliards au patronat. A l'inverse, les chômeurs et les allocataires du RSA n'ont droit qu'au mépris et ils sont toujours traités d'assistés. Les chômeurs ont toujours droit d'ailleurs à la leçon des droits et des devoirs, comme s'ils ne faisaient pas tout ce qu'ils pouvaient pour retrouver un emploi. Et évidemment, Sarkozy ne loupe jamais une occasion de s'en prendre aux travailleurs immigrés. Il utilise les préjugés les plus abjects et les mensonges les plus grossiers. Il a par exemple présenté les vieux travailleurs immigrés comme des profiteurs d'allocations. Eux, que le patronat a usé jusqu'à la corde sur les chaînes de production, dans le bâtiment ou dans le nettoyage. Et pourquoi y aurait-il donc trop d'étrangers en France? Au prétexte que c'est la crise? Au prétexte qu'il n'y a plus de travail? Il faudrait dire à tous ceux qui ont trimé et qui continuent de trimer dans les travaux publics, dans la restauration, dans les hôpitaux, qu'il n'y a plus besoin d'eux et qu'ils n'ont qu'à crever? Et après, qui y aura-t-il de trop dans la société? Les jeunes, qui sont aussi les premiers frappés par le chômage? Et après, ce sera autour des femmes, parce que les femmes peuvent peut-être rester au fourneau? Eh bien non, il n'y a aucun travailleur de trop dans cette société. Et l'intérêt collectif... Et l'intérêt collectif, eh bien, ce serait de répartir le travail et les efforts entre tous et d'avoir chacun un salaire qui permette de vivre. Mais cela, il faudra l'imposer au patronat. Et pour l'imposer, eh bien, il ne faudra pas se laisser diviser, mais il faudra au contraire unir toutes nos forces. Et je tiens à dire que les réactionnaires de droite et de gauche qui s'opposent à l'idée de régularisation de tous les sans-papiers et qui s'opposent au droit de vote des travailleurs immigrés dans toutes les élections ne l'emporteront pas au paradis des urnes, parce qu'en cas de grande lutte, tous les travailleurs se retrouveront côte à côte, français ou immigrés, avec ou sans papier, ils se retrouveront dans la même fraternité de la lutte collective. Quand même quelques voix auprès des ouvriers. Alors il essaye de refaire le coup du président du peuple, proche de la France qui se lève tôt. Mais il pourra visiter autant d'usines qu'il voudra. Et il pourra même, s'il le veut, enfiler un bleu de travail. Ce n'est pas ce cirque qui en fera un candidat du peuple, parce qu'on en a soupé des promesses de Sarkozy. Sarkozy monte en épingle la reprise de l'usine Le Jabi dit Saint-Jean par son ami Bernard Arnault, et celle de Photowatt par un autre de ses amis, Proglio, le PDG d'EDF. Pour les travailleurs concernés qui ont réussi à obtenir un sursis, c'est tant mieux. Mais cela ne peut que nous rappeler qu'il y a des milliers et des milliers d'ouvrières et d'ouvriers dans la même situation. Il y a bien sûr ceux dont on entend parler, les menaces de licenciement chez Petroplus, à ArcelorMittal, chez PSA, avec la fermeture programmée de l'usine d'Aulnay, celle de la menace aussi qui plane sur Sevelnor. Mais il y a tous ceux dont on n'entend pas parler, comme l'usine Merck dans l'Oise, comme l'usine Sodi Médical près de Troyes, comme les pépinières d'Elba à Montluçon. Enfin, je suis sûre que chacun d'entre nous pourrait rallonger encore cette liste. Et quand il ne s'agit pas de fermeture d'usine, eh bien il y a les plans dits sociaux, comme à la Redoute, comme aux Trois Suisses, ou des renvois d'intérimaires, qui sont ni plus ni moins que des licenciements. Alors, quand Sarkozy se présente comme un sauveteur d'entreprise, il y a vraiment de quoi être en colère. Et quand Sarkozy nous explique qu'il vient de découvrir que certains groupes du CAC 40 ne payent pas d'impôts sur les sociétés, ou qu'il vient de découvrir l'existence de parachutes dorés inadmissibles, et qu'il qu'il faut lutter contre les exilés fiscaux, on se dit que oui, vraiment, il n'y aura aucun mal à se reconvertir, parce qu'il pourra toujours se reconvertir dans le cinéma, comme acteur de série B, par exemple. Pas crédible sur le pouvoir d'achat, pas crédible pour lutter contre les fermetures d'entreprises, Sarkozy essaie de sauver la face en reprenant des couplets protectionnistes. Des couplets protectionnistes que l'on retrouve d'ailleurs chez tous les autres candidats, de Le Pen à Hollande, en passant par Bayrou, jusqu'à Mélenchon. Ils trouvent tous le moyen de pousser leur petit cocorico. Le produire en France est devenu la réponse à tout. Eh bien, ils participent, chacun à leur niveau, à lanterner les travailleurs. Parce que les licenciements, les fermetures d'entreprises, c'est aujourd'hui que ça se passe. Et il y a une mesure à mettre en œuvre d'urgence, c'est l'interdiction des licenciements. Et pour cela, nul besoin de réviser je ne sais quel traité européen, nul besoin de tirer des plans sur la comète. C'est une mesure qui pourrait être imposée immédiatement. Ils nous parlent tous de réindustrialiser le pays. Mais ils sont incapables d'empêcher la désindustrialisation. Ils ne s'opposent pas à aucune fermeture d'entreprise. Aucun de ces candidats ne veut s'opposer au grand patronat, et avec cette histoire de protectionnisme, eh bien, ils font diversion. La concurrence étrangère, la concurrence déloyale, c'est leur échappatoire. Montrer du doigt l'étranger, les autres pays, c'est une façon commode de dédouaner les capitalistes que l'on a en face de nous, ceux qui sont responsables des licenciements et des fermetures d'usines. Les fabricants de chômage, on les a sous la main. Ils sont ici. Ils sont à la portée de colère des travailleurs. Eh bien, il ne faut pas nous en laisser détourner. Si on ne veut pas que les luttes soient emmenées vers des voies de garage, eh bien, c'est à eux qu'il faut demander des comptes. Et puis, parler de produire français est stupide. On va produire français avec le pétrole français? Tout ce qui est produit, chaque objet fabriqué, il est avec des matériaux, des technologies, des pièces qui viennent des quatre coins du monde. Il n'y a plus de produits industriels français. Les entreprises elles-mêmes sont détenues par des capitalistes du monde entier. Et aujourd'hui, en France, un salarié sur quatre travaille pour l'exportation. Les échanges internationaux, c'est comme la circulation sanguine. S'ils s'arrêtent, eh bien, il n'y a plus de vie. Que certains à gauche présentent le produire en France comme un mot d'ordre pour les travailleurs est une escroquerie, en plus d'être stupide. Parce que dans cette économie, qui est-ce qui décide de produire? C'est vous? C'est moi? C'est le patronat qui décide de produire. Et quand il décide de produire en France, ce n'est pas pour nos beaux yeux, c'est pour faire des profits. C'est eux qui ont le pouvoir de décision. C'est eux qui en jouent du produire français. Ils savent faire chantage aux subventions, le chantage aux exonérations de cotisations sociales. Et quand ils touchent ainsi les millions d'aides publiques, c'est de nos poches que ça sort. Et cela va directement enrichir les profits privés. Alors, les travailleurs qui se laissent prendre à ce mot d'ordre ne font que tirer les marrons du feu pour le patronat. Si les travailleurs veulent reprendre le contrôle de leur emploi, de leur salaire et de leur avenir, il ne faut pas qu'ils comptent sur la bonne volonté patronale. Et encore moins sur leur patriotisme. Parce que la seule patrie que les patrons connaissent, c'est leur portefeuille, c'est leur coffre-fort. Regardez les exilés fiscaux. Regardez le succès des paradis fiscaux. Alors non, les travailleurs doivent se concentrer sur leurs revendications à eux, sur leur emploi, leur salaire et leur retraite. Ils peuvent peser de par leur force collective sur les décisions patronales. Et s'ils veulent reprendre en main la direction de l'économie, s'ils veulent avoir leur mot à dire sur comment la production est organisée, eh bien, il faudra qu'ils exproprient la classe capitaliste. Avec ce genre de discours contre les étrangers, avec les discours protectionnistes, tout le monde sert la soupe à Marine Le Pen, de la droite jusqu'à la gauche. Le protectionnisme, La démondialisation, c'est la version moderne de la propagande nationaliste qui était dans le passé le terrain de prédilection de l'extrême droite. Et bien que ces idées soient aussi véhiculées à gauche, ne change rien au fait que c'est un poison pour les exploiter. Et dans cette période de crise, il n'est d'ailleurs pas impossible que les États capitalistes en viennent eux-mêmes à remettre en cause les accords financiers, les accords commerciaux internationaux. Nous allons peut-être revivre une phase de remontée du protectionnisme. Mais souvenons-nous, la dernière fois que les grandes puissances ont opéré ce genre de repli protectionniste, eh bien c'était à la suite de la crise des années 30, et cela a mené à la Seconde Guerre mondiale. Alors personne ne peut dire où nous mènera la crise actuelle. Mais ce qui est certain, c'est que pour la classe ouvrière, il n'y aura d'issue qu'à travers des luttes pour défendre ses intérêts propres et qu'à travers la conscience d'être, à l'échelle du monde, une seule et même classe d'exploités. Comme Sarkozy, comme les autres, Marine Le Pen sait trouver les mots pour dénoncer les abus, les plus riches, le CAC 40. Mais elle défend la propriété capitaliste, elle défend la société telle qu'elle est, avec l'exploitation, avec ses inégalités, avec ses injustices. L'extrême droite associée au pouvoir, ce serait la classe ouvrière mise au pas. Parce que les travailleurs, Marine Le Pen les aime, mais elle les aime comme le patronat les aime, avec le doigt sur la couture du pantalon. Elle s'adresse, Marine Le Pen, aux travailleurs qui sont résignés, aux travailleurs désespérés. Mais quand les travailleurs se battent, quand ils font grève, c'est la première à hurler avec les loups. Le Front National vise, comme le patronat, à diviser les travailleurs. Le Front National affaiblit les travailleurs en jetant en pâture nos camarades de travail, nos compagnons d'exploitation, les travailleurs immigrés. Eh bien, rien que cela fait de Marine Le Pen une ennemie mortelle pour la classe ouvrière. Beaucoup autour de nous se disent qu'il faut dans cette élection au moins se débarrasser de Sarkozy, que ce sera déjà pas mal. Oh, ce sera bon débarras. Ça, c'est sûr. Mais le lendemain du 6 mai 2012, eh bien, on aura toujours en face de nous un patronat rapace. Et si certains patrons prennent aujourd'hui des gants parce qu'on est en période électorale, eh bien, une fois l'élection passée, ils procéderont au licenciement et aux fermetures d'usines qu'ils ont programmées. Parce que la crise, eh bien, elle est loin d'être finie. Et le patronat va continuer à la faire payer aux travailleurs. Et si Hollande est élu, qu'est-ce qu'il fera ? S'opposera-t-il aux fermetures d'entreprises ? Interdira-t-il les licenciements ? Est-ce qu'il forcera les patrons à augmenter les salaires ? Est-ce qu'il les forcera à embaucher les jeunes ? Eh bien non. Non, il ne le fera pas. Parce que le Parti Socialiste au pouvoir ne l'a jamais fait, et parce que tout simplement, dans cette campagne, eh bien il ne le promet pas. Hollande ne s'est engagé à rien vis-à-vis des travailleurs. Parce qu'il ne veut rien imposer à la bourgeoisie. Il ne veut pas la contraindre à quoi que ce soit. C'est le grand patronat qui gouverne réellement, qui impose ses diktats, mais Hollande ne veut le forcer à rien. Que ce soit sur la promesse des contrats de génération, sur la création des emplois dans l'éducation, ou sur la retraite, Hollande s'en tient au strict minimum, tout en expliquant que ces maigres mesures sont en plus conditionnées à la croissance, et qu'il faut payer la dette, d'abord et avant tout. Alors, il arrive de temps en temps à Hollande de faire preuve d'un petit peu d'audace. Lorsqu'il a annoncé, par exemple, qu'il remettrait à plat le quotient familial, qui fait la part belle aux familles riches. Mais il n'a pas fallu une semaine pour qu'il recule, pour qu'il s'excuse platement. De l'audace, il en a aussi eu quand il a annoncé une tranche de 75% sur les revenus dépassant le million d'euros. Mais aussitôt la mesure annoncée, aussitôt, la marche arrière a été enclenchée. Dès le lendemain de son annonce, Hollande a tenu à rassurer tout le Bollinge en expliquant que ce n'était qu'une mesure symbolique. Il a ensuite précisé que ce ne sera qu'une mesure temporaire, exceptionnelle, pour un temps très limité. le coup de grâce a été donné par la voix de Fabius, qui a proposé de plafonner l'impôt de sorte que cette mesure ne puisse être considérée comme confiscatoire. Idée qui a été confirmée par Hollande. Eh bien, Fabius, avec Hollande, ont tout simplement réinventé le bouclier fiscal à la sauce du Parti Socialiste. Alors, plus on se rapproche des élections, plus les différences de propositions entre le candidat de gauche et de droite s'amenuisent. Alors que la droite nous promet une rigueur de droite, la gauche nous promet une rigueur de gauche. Et si on tourne la page de la droite et de son bouclier fiscal, eh bien on aura droit au bouclier fiscal du Parti Socialiste. Eh bien, nous ne pourrons pas dire que nous n'avons pas été prévenus. Si futur gouvernement socialiste il y a, il fera ce que la finance lui imposera. Et nul doute que si la crise s'aggrave, que le gouvernement soit de droite ou de gauche, il imposera aux travailleurs les mêmes sacrifices imposés aujourd'hui aux travailleurs grecs. Les amputations de salaires et de retraites, la démolition des services publics et le chômage forcé. Alors, on entend de tous les côtés qu'il faut battre Sarkozy, que ça ne peut pas être pire. Mais si, cela peut être pire. Cela peut être pire parce que la crise peut se poursuivre et s'aggraver. Et que ce soit Hollande ou Sarkozy, les coups tomberont. Et si les coups viennent de la gauche, eh bien cela ne les rendra pas meilleurs. Alors plutôt que de nous bercer d'illusions, préparons-nous à nous défendre par nous-mêmes. Les travailleurs et les plus pauvres ont appris, à leurs dépens, que l'arrivée de la gauche au pouvoir ne changeait rien pour eux. Tous les gouvernements qui se sont succédés, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient de droite, ont toujours laissé les patrons faire ce qu'ils voulaient, quand ils ne prenaient pas fait et cause pour eux. Et y compris les gouvernements de gauche, ceux de Mitterrand et de Jospin, et même quand ils avaient fait des promesses aux travailleurs. Alors beaucoup sont écœurés devant ce cirque électoral, et ils se disent que voter ne sert plus à rien. Certes, le vote ne peut pas changer la vie des travailleurs. Mais il offre l'occasion d'exprimer sa colère. Pourquoi garder son poing dans sa poche et se taire quand on a l'occasion d'exprimer une colère consciente et de lever le drapeau des luttes? Des générations de travailleurs se sont battues pour avoir le droit de s'exprimer et de voter. Et bien des peuples se battent encore aujourd'hui pour conquérir ce droit en Égypte, en Syrie. Eh bien nous, ce droit nous l'avons. Eh bien nous devons nous en servir. Et nous devons nous en servir, y compris pour dire que les élections ne changeront rien à la vie des travailleurs et que ce qui peut changer, c'est que les exploités se battent pour inverser le rapport de force. Les travailleurs n'ont que trop payé dans cette crise. Les licenciements se multiplient, la pauvreté monte. Il est urgent et nécessaire pour les travailleurs de réagir et de se battre. Il faut, pour les travailleurs, un programme de lutte. Le premier objectif de ce programme, c'est d'abord et avant tout imposer l'interdiction des licenciements. Dès que les commandes et l'activité diminuent du fait même de la crise, dès que le patronat anticipe une petite baisse des commandes, eh bien il renvoie les intérimaires, il met les CDD à la poche, à la porte. Il met les CDD à la porte. Il supprime des emplois et il aggrave les conditions de travail de ceux qui restent. Le patronat maintient le même niveau de rentabilité et de profit malgré la crise parce qu'il se sert des travailleurs, de leur emploi et de leur salaire pour amortir les pertes. Eh bien, s'il y a moins de travail à faire, il faut forcer le patronat à le répartir entre tous les travailleurs. Qu'il baisse les cadences, qu'il diminue les horaires, mais qu'il garde tous les travailleurs et qu'il garantisse les salaires à 100%. Qu'il répartisse, qu'il partage le travail sur tous et qu'il maintienne les salaires. Et puis, il faut embaucher dans les services publics. Il suffit d'écouter le personnel hospitalier surchargé, les infirmières, les aides-soignantes, incapables de prendre leur jour de repos pour comprendre qu'il faut embaucher dans les hôpitaux et répartir le travail entre tous. Oui, il y a aussi de quoi embaucher dans les écoles, à la poste, dans les transports. Et il faudrait même développer de nouveaux services publics. Parmi les domaines où la défaillance du secteur privé est dramatique, il y a le domaine du logement. Désormais, les expulsions locatives ont repris. Près de 100 000 familles sont menacées d'être expulsées de leur logement. Combien parmi ces familles vont se retrouver sans logement, aérées de chambre d'hôtel en chambre d'hôtel, si elles ne se retrouvent pas tout simplement à la rue? La difficulté pour ces familles prend sa source dans l'absence d'un salaire digne, dans l'absence d'un vrai emploi. Mais elle est liée aussi au manque de logements sociaux, au manque de logements au loyer abordable pour des familles populaires. Ce qui est révoltant, c'est que ce problème ne date pas d'hier. Et ce qui est d'autant plus révoltant, c'est que la solution est tout à fait à la portée de l'État. Pourquoi ? Alors que l'État supporte, par exemple, l'essentiel des dépenses de l'industrie privée de l'armement. Et je tiens à rappeler que rien que le programme pour le Rafale aura coûté aux contribuables 40 milliards. Alors pourquoi l'État trouve de l'argent pour cela ? Et pourquoi il ne trouverait pas de quoi préempter les terrains et développer son propre service de construction en embauchant directement les maçons, les ingénieurs, les architectes? L'État pourrait le faire directement, sans en passer par ses marchands de béton et par ses spécialistes de fausses factures. Et voilà comment on pourrait le construire, le million de logements qui manque aujourd'hui cruellement dans le pays. Il faut aussi imposer des augmentations de salaire et des augmentations des pensions de retraite. Et ce ne serait qu'un rattrapage, parce que ces dernières années, tous les prix ont augmenté. Depuis 2005, le gaz, à lui seul, a augmenté de 60%. Au 1er janvier, le gouvernement s'est vanté parce qu'il n'a augmenté le prix du gaz que de 4,5%. Mais quel est le salaire, la pension de retraite ou l'allocation qui a augmenté de 4,5%? Et à cela, il faut rajouter l'augmentation des loyers, des charges, du carburant, des produits alimentaires. Et c'est sur la santé que le gouvernement a imposé les sacrifices les plus lourds. Les franchises médicales, les déremboursements de médicaments se multiplient à tel point que se soigner devient un problème pour beaucoup. Alors oui, il faut un rattrapage sur les salaires et sur les retraites. Mais si l'on ne veut pas être sans cesse appauvri par l'augmentation des prix, il faut en plus obtenir l'indexation des salaires sur les prix, c'est-à-dire l'échelle mobile des salaires. Les patrons s'appliquent à eux-mêmes l'échelle mobile. Dès qu'ils subissent une hausse de leurs achats, eh bien ils la répercutent sur leurs prix. C'est facile pour eux. Puisqu'ils fixent leurs prix, ils peuvent les adapter comme ils veulent. Il n'y a que les travailleurs qui ne sont pas maîtres de leurs revenus. Ils ne décident ni de leur salaire, ni de leur pension de retraite. Alors, à chaque hausse de prix, eh bien, il faut que les salaires, comme les retraites, comme le RSA, comme l'allocation logement familial, comme l'allocation adulte handicapé, augmentent automatiquement. Pour ne pas se laisser appauvrir quand tous les prix augmentent, il faut remettre d'actualité la lutte pour l'échelle mobile des salaires. Aujourd'hui, la bourgeoisie nous dit qu'elle n'a plus d'argent. Qu'augmenter les salaires, embaucher, ce n'est pas possible parce que cela la ruinerait. Qu'il y a la concurrence internationale. Les mêmes qui nous expliquent qu'ils ne peuvent plus cotiser pour la santé, pour la famille, pour les retraites, versent 200, 300 fois le SMIC à leur PDG. Ils trouvent des dizaines de millions à verser aux grands actionnaires. Millions qui seront ensuite dilapidés dans des caprices de riches, ou pire encore, dans la spéculation. Eh bien, il faut que toute la lumière soit faite sur l'argent qu'il y a réellement dans les entreprises. Les travailleurs ont le droit de connaître ce que l'entreprise verse en salaire, ce qu'elle économise aussi, du fait des multiples exonérations de cotisations sociales, du fait des niches fiscales, ce que l'entreprise verse en dividendes à ses actionnaires, ce qu'elle met en provision. Les patrons nous rabâchent que les travailleurs leur coûtent cher. Mais combien leur rapportent-ils? Et combien leur coûtent les actionnaires? Toute la société a intérêt à ces contrôles. Car les grosses entreprises ne se contentent pas d'exploiter leurs ouvriers, elles volent aussi les consommateurs, leurs fournisseurs ou leurs clients quand ils sont moins puissants. Il faut que l'on puisse connaître les conditions faites aux sous-traitants, les marges que les uns imposent aux autres, et y compris le dessous de table. Il faut donner aux travailleurs les moyens légaux de tout dire de ce qu'ils voient, sans être menacés de licenciement ou de mesures de rétorsion. Il faut supprimer le secret des affaires. Il arrive, quelquefois, aux petits paysans, étranglés par les prix trop bas proposés par la grande distribution, de faire des actions pour montrer la différence entre le prix que les grandes chaînes leur versent et le prix auquel le consommateur achète. Eh bien, ce sont des initiatives dont les travailleurs doivent s'inspirer. Parce que les salariés ont infiniment plus de possibilités encore que les petits paysans pour procéder à ce type de contrôle au jour le jour. Ils sont en position pour dévoiler les petites et grandes magouilles et pour montrer le vol à grande échelle qui caractérise l'activité économique de ces grands groupes capitalistes. Et plus qu'un droit au contrôle, il faudrait même parler de devoir civique. Parce que c'est la seule façon de dénoncer et d'empêcher les crimes patronaux. Ceux perpétrés par les banquiers et par les spéculateurs irresponsables, mais ceux aussi perpétrés par ces patrons qui sont prêts à sacrifier la santé de leurs salariés au nom de la rentabilité, comme ce fut le cas de ces patrons qui ont empoisonné des centaines de milliers de travailleurs avec l'amiante. Alors cette mesure, eh bien, ce serait un objectif essentiel lors d'une lutte générale, parce qu'elle modifierait le rapport de force entre le patronat et les travailleurs en donnant de nouvelles armes aux travailleurs. Il en serait fini du chantage patronal, des fausses rumeurs, des fausses informations. Les travailleurs sauraient à quoi s'en tenir. Ils pourraient anticiper, s'organiser face aux attaques patronales et ils pourraient prendre l'initiative pour les empêcher de nuire. Les travailleurs pourraient contester la programmation des fermetures de sites. Ils pourraient contester les licenciements. Ils pourraient s'opposer aux décisions qui font fi de la protection de l'environnement et qui vont à l'encontre de l'intérêt des consommateurs. La crise actuelle montre clairement que cette classe capitaliste, les banquiers, préoccupés par leur seul profit privé, sont trop irresponsables à l'égard des intérêts de la société. Mettre en cause leur pouvoir dictatorial sur les entreprises est une nécessité sociale. Pour que les entreprises et l'ensemble de l'économie tournent au profit de tous, pour satisfaire les besoins de toute la population, il faut combattre la mainmise de cette minorité capitaliste sur les grands moyens de production et les gérer collectivement, le plus démocratiquement possible. Exproprier la classe capitaliste pour reprendre la maîtrise de l'économie est une nécessité. Et il faudra commencer par exproprier les banques. Et pas seulement parce que les banquiers se conduisent comme des irresponsables et qu'ils ont transformé les salles de banque en salles de casino, mais parce que ce sont les banques qui commande l'économie. Prendre la maîtrise des banques, c'est contrôler l'essentiel de l'économie. L'énergie, les transports, la distribution, c'est décider de l'usage fait des capitaux. Et c'est les orienter dans des investissements utiles à toute la population. Exproprier les banquiers, c'est-à-dire nationaliser, sans indemnité ni rachat, et fusionner les banques en un seul établissement de crédit, sera un pas de géant fait en direction de la gestion de toute l'économie par les travailleurs et avec l'expropriation des grands groupes du CAC 40 qui font la pluie et le beau temps dans l'économie, eh bien les travailleurs pourraient reprendre la maîtrise de toute l'économie. Cela ne sera possible qu'au travers d'une mobilisation puissante des travailleurs, qu'au travers d'une mobilisation même révolutionnaire des travailleurs. Mais pour mettre fin à la dictature aveugle et nuisible d'une minorité sur l'économie, il n'y aura pas d'autre voie. La jeunesse, qui a toujours été à la pointe de la contestation, aura un rôle majeur à jouer. Alors dans cette campagne, je m'adresse aussi aux jeunes, à tous ces jeunes des quartiers populaires qui, après avoir été exclus de l'école trop tôt, sont baladés de petits boulots en longue période de chômage. Ils savent que la vie de leurs parents n'a jamais été rose, mais ils se disent qu'avec la crise et qu'avec le chômage, eh bien, ça sera encore pire pour eux. Je veux m'adresser aussi à tous les jeunes des quartiers populaires qui subissent le contrôle aux faciès, qui sont marginalisés et qui ensuite sont accusés à longueur de journée de tous les maux de la société. Je veux m'adresser aussi aux jeunes diplômés qui rêvent peut-être une carrière à la Steve Jobs ou à la Bill Gates, mais que la réalité cloue au comptoir d'un McDo ou à la caisse d'un supermarché. Eh bien, je dis à tous ces jeunes qu'ils ont raison d'être révoltés. Qu'est-ce que c'est que cette société où une minorité peut gagner sur une bonne affaire en quelques jours ce que ne gagnera jamais aucun salarié toute sa vie durant? Et qu'est-ce que c'est que cette société où on trouve des milliards pour les banquiers, pour les marchands d'armes, et on nous dit ensuite qu'il n'y en a plus pour construire des logements, des écoles, des hôpitaux? Et qu'est-ce que c'est que cette société où l'argent, les profits, le luxe comptent plus que la vie humaine? Alors oui, cette société, elle fonctionne à l'envers. Et elle est condamnée à disparaître. Mais elle ne disparaîtra pas toute seule. Il faut des jeunes conscients du combat à mener. Il faut des jeunes qui ne s'arrêtent pas aux différences de religion, de sexe, d'origine, de couleur de peau. Qui ne s'arrêtent pas aux différences de métier. Aux différences parce que les uns sont tombés dans le chômage et que les autres ont encore un travail. Il faut des femmes et des hommes, des jeunes et des moins jeunes, conscients. Conscients de partager un sort commun. Conscient de faire partie d'une seule et même classe d'exploités, capable de changer la société. Sans même parler de la transformation de la société en profondeur, aucun grand progrès pour les travailleurs n'est venu des gouvernements. Tout ce que les travailleurs ont obtenu, ils l'ont arraché au patronat. Par leur grève, par leur mobilisation, par leur manifestation. Il n'y a jamais eu de sauveur suprême pour les travailleurs. Les victoires, ils les ont toutes gagnées de haut but. Mais plus on approchera des élections, et plus on nous fera croire que notre sort dépend du bulletin que chacun glissera dans l'urne. Et il y a déjà une pression implicite ou explicite sur l'électorat de gauche au vote utile. C'est-à-dire au vote pour François Hollande dès le premier tour. Que ceux qui sont convaincus par Hollande votent pour lui, c'est dans l'ordre des choses. Mais ceux qui ne lui font pas confiance, ceux qui ont encore en mémoire et qui ont encore sur le cœur la politique menée par le Parti Socialiste à chaque fois qu'ils ont gouverné, n'ont aucune raison de voter pour Hollande au premier tour. Ceux qui sont convaincus que Hollande élu, eh bien il fera ce que le patronat exigera de lui. Et qu'il laissera les travailleurs seuls face à leur patron, n'ont aucune raison de voter Hollande au premier tour. Il faut que Hollande sache que même si la haine vis-à-vis de Sarkozy lui a permis d'être élu au second tour, une fraction au moins de la classe ouvrière ne lui fait pas confiance. Quant à Mélenchon, il attirera un certain nombre d'électeurs de l'électorat populaire critique, justement vis-à-vis de Hollande. Ses airs de tribun, ces envolées contre les puissances de l'argent peuvent plaire. Mais tout cela, c'est pour nous faire croire que le salut pour les travailleurs viendra d'un changement de gouvernement. Et Mélenchon ne s'en cache pas. Son modèle en la matière, c'est le gouvernement Mitterrand. Mais combien de travailleurs ont placé leurs espoirs dans Mitterrand, qui promettait de changer la vie, qui parlait même de rupture avec le capitalisme? Et combien, parmi eux, se sont sentis trahis? Parce qu'il a fini par se comporter comme n'importe quel patron, en bloquant les salaires, en licenciant à tour de bras dans la sidérurgie et même en glorifiant la bourse. Alors, des faiseurs d'illusions gouvernementales, il y en a toujours eu. Et toute notre politique consiste à les dévoiler auprès des travailleurs, à les prévenir des mauvais coups et des désillusions, à les armer politiquement pour affronter la suite. Je ne dirai pas « votez pour moi, je ferai ceci, je ferai cela, et tout ira beaucoup mieux pour vous ». Non, ça, je serai la seule candidate à ne pas le dire et à ne pas le promettre. Voter pour ma candidature, Ce sera exprimer la conviction que si les élections ne peuvent pas changer la vie, la lutte collective des exploités en a la force et la possibilité. Voter pour ma candidature, c'est affirmer qu'on n'est pas dupe devant les alternances électorales. C'est affirmer qu'il y a parmi les travailleurs des femmes et des hommes conscients d'avoir à se battre par eux-mêmes. Tous ceux qui voudront affirmer qu'il faudrait refaire un mai 68 pour imposer l'interdiction des licenciements, pour imposer des augmentations de salaire et pour imposer un contrôle des travailleurs sur les entreprises et sur leur argent, pourront le dire en votant pour moi. Bien sûr, le vote ne remplace pas les luttes. Mais les luttes, eh bien, elles se préparent dans les têtes. Et on peut contribuer à les préparer dans les têtes de ceux qui nous entourent en popularisant un programme, des objectifs autour desquels on peut s'unir et autour desquels on peut se battre. Si, dans cette élection présidentielle, nous nous retrouvons plusieurs centaines de milliers autour de ce programme de lutte, eh bien ce sera un pas considérable qui préparera la suite qui se déroulera là où tous les changements se décident, c'est-à-dire dans les luttes. Oui, ce sera un vote utile. Et puis, une fois l'élection terminée et les urnes rangées, eh bien, il faut que le programme que nous avons défendu pendant cette campagne continue de l'être après. Pour cela, il faut un parti qui représente les intérêts politiques et moraux de la classe ouvrière. Et celui-ci n'existera que lorsqu'il sera rejoint par plusieurs dizaines de milliers de femmes et d'hommes, prêts à se consacrer à la transformation de la société. Il n'existera vraiment que lorsqu'il pourra être présent et actif dans tous les domaines de la vie sociale. Dans les entreprises d'abord, parce que c'est là que se mène jour après jour la lutte de classe, et parce que c'est là que se décidera l'issue du combat entre les classes sociales. Mais il faut aussi que ce parti soit présent partout ailleurs, dans les quartiers populaires, dans les écoles où se forme la jeunesse, dans tous les domaines qui touchent à la vie des travailleurs. Nous sommes encore loin de cette situation, mais c'est cette présence de militants communistes qui peut aussi prendre le contre-pied de l'extrême droite et des forces réactionnaires de tous ordres qui essayent de capter à leur profit le mécontentement et la colère que la crise du capitalisme ne manquera pas de susciter. Alors, camarades et amis, en nous aidant dans cette campagne électorale, vous participerez à notre combat commun, à la propagation de toutes ces idées, de ces objectifs, qui seront décisifs en cas de remontée des luttes. Votez et faites voter pour ma candidature, et une fois l'élection terminée, continuons ensemble ce combat.